Bonjour à toutes et à tous. Et non, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien sur Radio Campus Amiens 87.7 et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Si j'ai choisi de mettre les Dixie Stampers, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons parler Art Déco, ce mouvement artistique mondial qui connut ses heures de gloire pendant les années 20. Jusque début juin, le printemps de l'Art Déco, créé par le Conseil Régional, propose de nombreuses animations dans tous les Hauts-de-France. Nous avons choisi de faire une visite avec le guide conférencier pour la ville, Christophe Boulard, qui nous propose de découvrir les garages Art Déco amiénois.
Comment est-ce que vous pouvez décrire le mouvement des arts décoratifs ?
C'est un mouvement très particulier, puisqu'il prend vraiment le contre-coup, il est vraiment à l'opposé de ce qu'on va pouvoir trouver dans l'art nouveau, que j'ai mentionné en début de visite, et qui s'étend finalement sur une période assez longue, puisqu'on le voit apparaître dès les années 1910, de manière un petit peu discrète, et ensuite prend beaucoup d'importance dans les années 20, les années 30, voire les années 40. Et il prend tellement d'importance qu'on lui donne ce nom d'art déco, comme je disais en début de visite, on le baptise art déco seulement dans les années 60. Donc ce qui est assez glorifiant pour lui, puisque on a conscience que ce courant artistique a eu vraiment sa gloire, on va dire, dans les années 20, dans les années 30.
Il s'arrête quand ce mouvement et pourquoi ?
Est-ce qu'il s'arrête vraiment ? Est-ce qu'on a une date ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? Bon, la société de consommation que je mentionnais aussi en visite, commence bien sûr avant la Seconde Guerre mondiale, mais voilà. Alors, est-ce que l'art déco se perd ? Je pense qu'on passe sur d'autres types d'architecture, très spécialisés, très spécifiques, avec des architectes spécialisés, très pointus dans leur domaine. Tout à l'heure, je parlais d'un architecte fonctionnaliste, d'un architecte urbaniste. L'architecture se décline sur différentes thématiques, sur différents types d'architecture, bien sûr, mais sur différents types d'utilisation justement de cette architecture.
Alors, quelles sont les principales caractéristiques de l'art déco ?
Pour moi, les principales caractéristiques de l'art déco, c'est la fonctionnalité, déjà. C'est un art qui est très fonctionnel, donc il ne faut pas le voir uniquement comme étant un art où on va décrire des formes. Il faut aller plus loin. Il faut se demander pourquoi on a construit le bâtiment de telle manière. Bon, bien sûr, il y a des éléments décoratifs qui ne sont pas fonctionnels, qu'il faut décrire, bien évidemment. Mais en plus de ça, il y a ce côté fonctionnel qui est vraiment à mettre en avant, à décrire, et essayer de savoir pourquoi il était utilisé, pourquoi on en a eu besoin. Et voilà.
Vous expliquez en plus au cours de la visite que l'art déco ne concerne pas uniquement l'architecture. On le retrouve dans toute la vie du quotidien, le mobilier, comme vous le disiez, la coiffure. Enfin, c'est très large, en fait. C'est un mouvement qui a touché énormément de domaines.
Oui, c'est très très large. Et là, il ne faut pas hésiter à citer l'art déco dans tout type d'architecture. Je mentionnais les hôpitaux, les gares, il n'y a qu'à voir la gare de Lens, par exemple. Tout type, les maisons individuelles, les immeubles, voilà, il suffit de lever la tête et trouver de l'art déco. Alors j'espère qu'avec ce printemps de l'art déco, le public va lever les yeux là, de plus en plus sur les maisons, sur les façades, parce que c'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les gens puissent dire « Ah bah tiens, ça c'est l'art déco, on m'en a parlé, ça ressemble à ça, je suis sûr que c'est l'art déco, c'est pas l'art nouveau », qui disent aussi bien art nouveau et art déco. L'art nouveau qui est très très intéressant aussi, qui témoigne aussi d'une période, cette fin du 19e, où c'est, tout est... Alors c'est la la Belle Époque aussi, voilà, cette Belle Époque que l'on retrouve aussi dans l'architecture. Donc voilà, c'est vraiment une traduction, voilà, une illustration de ce qu'était la Belle Époque. Et l'Art déco, voilà, c'est plus la Belle Époque, c'est autre chose, c'est aussi une Belle Époque, hein, voilà, les années 20, c'est une Belle Époque, mais qui malheureusement, comme je disais, c'est terminé, a été, un petit peu bousculé par cette année 1929, hein, cette crise de 1929 qui a un peu bousculé les choses. Et puis, bien évidemment, le début de la Seconde Guerre mondiale à partir de 1939. Voilà.
Alors, pourquoi les garages? Pourquoi cette visite a choisi le thème des garages?
Pourquoi les garages? Ah ben, parce qu'à Amiens, déjà, on a la chance d'avoir plusieurs garages encore debout, une architecture art déco, qui est absolument remarquable et évidente, voilà, avec des aspects tangibles, voilà, évidente, voilà, quand on peut lire cette façade déco. Donc c'était bien aussi dans cette visite d'évoquer un garage qui n'existe pas, qui n'existe plus, bah, avec des photos. Voilà, pour se dire que, eh bien, à une époque, eh bien, on pensait garage de telle manière. Bon, malheureusement, il n'existe plus, mais bon, on a des photos qui vont pouvoir témoigner de cette époque. Voilà, en revanche, on a deux autres garages que j'ai voulu montrer parce qu'ils étaient vraiment, eux, très représentatifs de cette architecture. Alors, pour en revenir à ce garage, voilà, dont la construction remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui est situé à l'angle de la rue des Trois Cailloux et de la rue Ernest Cauvin. Alors, à votre avis, il était destiné à la mécanique, à la réparation? Aux réparations? Ah non, pas du tout. C'était un magasin d'exposition. Ah ben oui, il fallait bien ça. Dans une grande ville comme Amiens, et voilà. Voilà, il n'y a pas que la mécanique, il faut aussi, implanter dans de grands bâtiments. Mais aussi, il faut faire la publicité, faire la promotion des véhicules, des nouveaux véhicules.
Vous expliquez aussi l'importance de ces garages qui correspondent dans l'histoire à une évolution aussi au niveau de la consommation. C'est que la voiture devient plus importante dans nos vies.
Oui, l'automobile devient importante dans nos vies. Alors, forcément pas pour tout le monde dans les années 20, dans les années 30, bien évidemment. Seules les personnes aisées pouvaient se procurer une voiture, acheter une voiture. Voilà, donc ce n'est qu'un début, hein, de ce que l'on va connaître bien après et puis encore maintenant, avec toutes les problématiques autour de l'automobile à l'heure actuelle. Mais voilà, à l'époque, on ne se préoccupait pas de ce genre de... des problématiques environnementales ou autres, mais voilà, donc c'est le début d'une industrie, d'une véritable industrie. On parle des premières automobiles qui ont été réalisées, et puis après on parle de construction en série, hein. La construction en série, alors qui se limite pas uniquement à l'automobile, hein, pour d'autres produits. Mais voilà, et donc les garages sont aussi le fruit de ce développement en série. Voilà. L'illustration, encore une fois, de ce développement en série, voilà, dont on a encore quelques témoignages dans les Hauts-de-France et dont à Amiens.
Le garage rampe, voilà, c'est typique du jouet des garçons.
Exactement.
C'est vraiment typique.
Il n'y avait pas d'autre forme, donc je me rappelle avoir vu ça chez les garçons.
Bon, il existe encore ce jouet avec garage en garage avant.
Alors, comment reconnaître les figures stylistiques justement de l'art déco?
Alors, oui, elles sont rectilignes. Alors, rectilignes dans les formes. Alors, comme je le disais en cours de visite, on utilise aussi de nombreux matériaux. La palette est large. On part du béton armé, voilà, qui est vraiment la structure de base de tous ces édifices art déco, dont les garages. Et puis après, on y ajoute une petite touche artistique, mais qui est vraiment propre à l'art déco. Cette touche va reprendre, comme je disais, eh bien, l'architecture de la Renaissance, mais aussi de l'Antiquité. Et voilà, on ne lâche pas l'Antiquité, elle est toujours là, elle est toujours présente, même sur des garages. Donc, ce qui fait un peu sourire, parce que pourquoi retrouver la Renaissance sur une architecture industrielle, ça fait toujours sourire, mais voilà, donc c'était la mode de l'époque. Et puis, je trouve que c'est une architecture qui se marie tout à fait avec... avec un garage, ouais, même si ça fait sourire.
À titre personnel, qu'est-ce qui vous plaît dans l'art déco ?
Ce qui me plaît dans l'art déco, c'est le foisonnement d'idées, le foisonnement des formes. Toutes les maisons art déco, alors elles ne se ressemblent pas, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une maison art déco qui va ressembler à une maison art déco qui se trouve juste à côté. Ce n'est pas du tout les mêmes formes, mais c'est le même style. C'est le même style, c'est le même, c'est un ensemble de traits de façade, de détails de façade, qui fait que, eh bien, c'est un style finalement hétérogène dans une architecture homogène. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu ça. Typiquement, la rue Ernest Gauvin dans Amiens, c'est ça. Voilà. Aucun immeuble ne ressemble à son immeuble de droite ou de gauche. Mais c'est l'ensemble, en fait, qui est homogène pour moi. Et c'est ce que j'apprécie dans cet art.
Ouais. Personnellement, c'est la première fois que je vois de l'art déco. Je connaissais même pas ce terme. Et je trouve ça très
jeune,
intéressant.
Normal, ouais.
Je suis qu'au collège, donc voilà. Mais oui, j'ai trouvé ça très intéressant.
Tant mieux. Bon, après, on peut... Moi, je sais qu'au début, j'étais plutôt attirée par l'art nouveau, parce que c'était, bon, avec les motifs végétaux, floraux. Effectivement, l'hôtel, le Buchtovanier, j'ai eu l'occasion de le visiter quand on pouvait encore le faire. C'est une splendeur, mais c'est pas du tout de l'art déco. Et après, je me suis dit, l'art déco, c'est... Effectivement, c'est plus rigide, plus... Il faut peut-être un peu s'initier, il faut... Bon, ça vient... Mais effectivement, c'est une éducation de l'œil aussi. Au bout d'un moment, on arrive à repérer des détails, puis on est content parce que, tu vois, là, c'est... Vous avez regardé un peu, vous, les façades, vous avez appris des choses.
Oui, ben voilà.
Ça vous plaît ou pas ?
Ben, c'est drôle parce que je passe devant, souvent.
Mais ouais, et sans faire attention.
Voilà, justement, ça s'est arrêté là, quoi. Donc, ouais,
ben, des fois, il faut avoir le temps et il faut tout faire à pied en prenant son temps.
Si vous souhaitez vous aussi découvrir l'architecture art déco des garages de centre-ville, une prochaine visite est prévue le 18 mai à 11h. Rendez-vous devant le cinéma Pathé, boulevard de Belfort. Et si vous souhaitez surtout découvrir l'ensemble de la programmation du printemps de l'art déco, rendez-vous sur le site internet www.printempsartdeco.fr. Pour conclure cette émission, je vous propose d'écouter le 5e et dernier épisode de la série « L'électrostimulation est-elle du sport ?» réalisée par Colline Fauvet, étudiante du Master 2 de journalisme de l'UPJV. Bonne écoute, à bientôt, tchuss.
Qui bouge, voilà, et la cuisse qui brûle.
Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment ? Une séance de musculation.
Vous aussi, vous voyez passer des images d'athlètes avec des drôles de fils branchés partout sur le corps.
Kim enfile une combinaison pleine d'électrodes et c'est parti pour une séance d'exercice de 20 minutes.
On a mouillé le maillot, se met au courant cette semaine en s'essayant à une discipline prisée, l'électrostimulation.
Vous avez testé l'électrostimulation musculaire. Ça sert à quoi votre truc ?
Il y a une époque où les publicités sur l'électrostimulation envahissaient les télévisions. Cette représentation stéréotypée avec des personnes musclées qui l'utilisent donne envie de sourire. Mais pour d'autres, c'est une révélation et ils décident de se lancer. Carole, vous avez utilisé l'EMS pendant un an. Ces fameuses publicités vous ont-elles séduite ?
J'ai eu envie d'essayer en voyant toutes ces personnes musclées à la télé. Alors, je voulais pas être aussi musclée qu'elles, mais je voulais quand même avoir plus de muscles que je n'avais à l'époque. Alors j'ai commandé sur internet et puis j'ai mis ces patchs sur mon ventre pendant un an, de façon régulière. J'étais contente, j'ai constaté une évolution positive. Puis après j'ai arrêté par manque de temps et j'ai oublié, car je devais penser à mettre les électrodes une fois par jour sur mon ventre. Alors, pour ce qui est des publicités, moi, j'ai envie de dire, c'est comme pour les régimes. Hein. On vous montre toujours des personnes minces qui ont fait les régimes pour nous montrer que les régimes fonctionnent. Eh bien, là, c'est pareil. Hein. Ils jouent avec des gens bien, bien musclés pour vendre leurs produits.
On a vu avec le coach Marc Delporte les contre-indications de l'électrostimulation. Est-ce que lorsque vous avez commencé à utiliser ces patchs, vous vous êtes renseigné sur celles-ci ou même fait appel à votre médecin traitant ?
Je me suis lancée dans cette aventure sans vraiment réfléchir. Je n'ai pas regardé les contre-indications. Et comme je n'ai jamais eu de problème de santé, je n'ai pas pensé que ça pouvait poser des problèmes. Mais c'est vrai qu'en parlant, j'aurais peut-être dû être plus attentive.
Une dernière question concernant l'usage de l'électrostimulation. Vous l'avez utilisé seul, sans accompagnement ? Que ce soit pour la nutrition comme pour la pratique sportive, est-ce que vous regrettez ?
Je ne sais pas, pour être honnête. Pour ce qui est de la nutrition, c'est vrai que je cuisine beaucoup, je fais des plats très variés. Je mange normalement et je ne me prive pas pour autant, mais ce sont vraiment des choses équilibrées, variées. Et peut-être que j'aurais dû faire appel à un coach, par contre, pour utiliser l'EMS. Au jour d'aujourd'hui, je suis suivie par un coach sportif, mais pas pour pratiquer l'EMS. Je vais dans une salle de sport, j'utilise le matériel à disposition et puis je suis encadrée dans les exercices que je fais pour travailler chaque muscle de mon corps. Par contre, si mon coach me parle de l'EMS, je ne sais pas, peut-être que j'envisagerai de recommencer.
Car cela serait un gain de temps, non ? Une séance de 4 heures en 20 minutes, ça peut changer l'organisation d'une semaine.
Alors oui, pour le gain de temps, oui, effectivement, j'ai gagné du temps. Mais j'ai bien aimé aussi utiliser l'électrostimulation.
Justement, on sait qu'il faut utiliser l'électrostimulation en effectuant des exercices de fitness en même temps. Votre pratique, à vous, est complètement différente, non ?
Alors, j'utilisais ces patchs en faisant complètement autre chose. Je les mettais 20 à 30 minutes et je regardais un film où je faisais du ménage ou de la cuisine. Mais avec les photos à la pluie, j'ai quand même constaté une évolution.
Pourquoi cela ?
Parce que c'est difficile de rester motivé à l'utiliser. Je pense qu'un accompagnement est nécessaire et bien utile pour justement rester constant dans cette utilisation. J'ai la chance, moi, que c'est marché du premier coup. Mais nous sommes tous différents. Et de plus, vous venez d'apprendre qu'il y avait des contre-indications. Donc c'est important de bien se renseigner avant de se lancer dans cette expérience.
Alors vous l'aurez compris, il est très important de bien se renseigner avant d'utiliser l'EMS. Que ce soit pour ses bénéfices, son gain de temps et ses résultats prometteurs, l'EMS n'est pas un jouet ou un remède miracle. C'est une pratique sportive qui demande des efforts, de la patience et de l'encadrement.